Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'architecture.
Selon sa biographie, c'est une rencontre avec Emmanuel Leroy-Ladurie qui lui ouvre les portes de l'École des hautes études en sciences sociales et qui lui ouvre la voie également vers l'anthropologie. Si je fais vite, au risque de caricaturer, une seconde rencontre déterminante est celle avec l'anthropologue Françoise Héritier, successeur bien connu de Claude Lévi-Strauss au Collège de France, et à qui succédera Philippe Descola. Mais Véronique Naumgrapp, c'est ici et c'est maintenant. Je l'ai entendu récemment ouvrir une conférence en dénonçant avec Flaubert la rage de l'interprétation, formule qui m'a beaucoup marqué et qui m'a conduit à me demander si c'était au fond un des éléments essentiels, ou plutôt préalables, de sa profession. Alors sa profession anthropologue me conduit à la première question. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'un anthropologue, Véronique ?
Alors, l'anthropologie est la plus jeune des sciences sociales depuis environ un siècle et demi. Et l'anthropologie veut tenter de décrire l'espèce humaine dans son devenir, au moins 400 000 ans, 300 000 ans d'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire bien avant la période historique des historiens qui, eux, commencent à travailler dès qu'il y a de l'archéologie, des sources écrites, etc. Donc l'angle d'attaque de l'anthropologie, même s'il y a eu des mutations phénoménales entre la fin du 19e et le milieu du 20e siècle, c'est quand même cette idée, qu'est-ce qu'un groupe humain, comment ils ont fait société, comment ils se sont détachés de formes anciennes de sociabilité, comment penser ce devenir, l'attention aux groupes non occidentaux, de chasseurs-cueilleurs à la fin du 19e siècle et pendant tout le 20e siècle a été très importante. L'anthropologie s'est donc attachée à tenter de comparer les recherches ethnologiques qui, elles, s'attachent à décrire un groupe culturel donné et donc qui a choisi les groupes culturels fermés, non occidentaux, des sociétés qui vivaient dans des systèmes fermés et une économie très particulière. Et l'anthropologue, en comparant les travaux des ethnologues sérieux et validés, en les mettant les uns à côté des autres, tente de reconstituer la question du faire société humain en général. Donc, on voit bien la différence d'échelle et de méthode entre ethnographie, la description d'un terrain précis, ethnologie, essayer de rendre compte des mécanismes qui dans une culture donnée, entraînent un système de croyances, des pratiques, pourquoi les uns font ceci, les autres font cela. Et l'anthropologie, qui, elle, s'est appuyée sur tous ces récits, les récits des ethnologues eux-mêmes, copiant les récits des voyageurs depuis le XVIe siècle, et beaucoup de récits de voyages, de curés, de voyageurs formidables, qui ont été les premières sources. Et après, les anthropologues les copient, les lisent et vont sur le terrain, etc. Et ça forme une lourde bibliographie où l'enjeu, c'est la comparaison. Et c'est la méthode de Lévi-Strauss, c'est-à-dire, et c'est d'ailleurs la question de Montaigne, pourquoi en deçà des Pyrénées, au-delà, pourquoi ici on fait comme ça et là on fait comme ci, et on voit bien que l'anthropologie est très particulière et finalement ne ressemble pas à la sociologie, même si, alors on arrive à Françoise Héritier, même si l'école française, on peut l'appeler comme ça à mon avis, des années 70-80, de l'anthropologie, après, et en même temps finalement, mais un peu après l'école des annales des historiens, a tenté de se saisir des mondes contemporains. Parce que d'abord, les sociétés fermées étaient de plus en plus globalisées, elles aussi, et les fameux indiens, les fameux groupes culturels tellement particuliers en réalité, avaient accès à la culture occidentale et pouvaient eux-mêmes se mettre à examiner ce que les anthropologues disaient d'eux ou les ethnologues disaient d'eux. La société s'homogénéise, Lévi-Strauss avait une nostalgie terrible d'une société où plein de différences majeures existaient selon le lieu entre les cultures. Là, quelque chose se globalise, nous le savons, et du coup, les anthropologues français et avec eux beaucoup d'anthropologues internationaux, se sont attachés à poser la question du faire société contemporain, donc des sociétés ouvertes, des sociétés urbanisées de plus en plus à l'extrême, et ça va avec l'histoire du XXIe siècle, c'est pour ça que vos métiers, vos travaux sont absolument cruciaux, et des sociétés dans lesquelles l'anthropologue lui-même est inclus, est totalement enveloppé, il n'est pas extérieur comme il était, même quand Descola se balade en Amazonie il y a quelques années, quand il a écrit le merveilleux livre « Les lances du crépuscule », il a besoin d'un informateur, il est complètement extérieur à la société qu'il tente de décrire. Et c'est seulement en partageant sa vie qu'il tente de le décrire. Parce qu'une grande différence entre la méthodologie ethno-anthropologique et l'autre méthodologie, disons, sociologique, et même historique, c'est de ne pas s'attacher à ce que les gens disent forcément dans les questionnaires. C'est-à-dire, on vous pose une question, pourquoi vous vous ennuyez, vous répondez oui ou non. Donc la réponse que vous donnez, elle est intéressante pour les sondages d'opinion, mais pour l'anthropologue, non. Parce que ce qu'on dit ne correspond pas forcément à ce qu'on pense, ou partiellement. Ce qu'on dit à midi ne correspond pas à ce qu'on aurait dit à minuit, après avoir peut-être un peu trop bu. Ce qu'on dit, on n'a absolument pas conscience de la façon dont nous fonctionnons. Non pas que ce soit inconscient, mais la culture fonctionne dans l'évidence et la platitude. On n'a pas pourquoi on fait tel geste plutôt que tel autre, pourquoi on dit « à votre santé » avec un verre alors qu'il s'agit d'un poison, nous dit la science, pourquoi toutes ces choses-là, non pensées, c'est vraiment l'objet de l'anthropologie en fonction évidemment des thèmes choisis.
Ça pose un panorama très, très remarquable, parce que dans quelques minutes, je pense qu'on voit bien en effet les différences et on comprend bien chacune de ces sciences et c'est son intérêt, leurs intérêts et leurs méthodes. Mais alors, je voudrais un tout petit peu revenir en arrière. Si nous parlons de l'anthropologie de Lévi-Strauss, au fond, qu'est-ce qu'il attend de ces explorations, de ces recherches et du temps qu'il va passer en restant lui-même, en s'implantant, etc. Lui, je crois que c'est les Bororos, notamment, si je me souviens bien. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à voir une population qui n'aurait pas trop évolué, qui lui donnerait une clé de compréhension de ce qui se passait il y a très longtemps?
Lévi-Strauss a fait des études de philosophie. Et non, sa question, c'est vraiment... quand il étudie, soit le contre-don, l'échange des femmes, le tabou de l'inceste, etc., le système de parenté, lui, ce qu'il cherche, c'est dans la comparaison entre des sociétés différentes, parce que disait-il, si on essaye de comprendre une seule situation entièrement, on passerait sa vie et plusieurs générations à la décrire. Il n'y aurait pas de fin. C'est la comparaison la clé. Et donc, lui, son objet, c'est vraiment... Qu'est-ce que la société humaine? Comment ça fonctionne? Et je voudrais ajouter une chose et qui rejoint la question sur la rage d'interpréter, l'ennemi du chercheur en sciences sociales à mon avis, c'est que avant le roi Ladurie, il y a eu Jean Kilevitch et il y a eu la philosophie. Et donc j'appelle ce que je fais personnellement, en toute modestie, c'est l'ethnophénoménologie. C'est-à-dire, le mot de phénoménologie est très important parce que un des principes, l'affaire est assez délicate, c'est en face d'une situation que vous avez pour mission de tenter d'observer le plus en s'approchant du réel. On sait que c'est difficile, on sait que c'est pas tout de suite, ou alors il faut sans cesse revenir en arrière dans une boucle permanente, mais qu'est-ce que je crois voir? Et ce ralentissement au moment de la perception, là, c'est essayer de stopper la rage d'interpréter, c'est essayer d'assécher cette prolifération des images et des idées qui viennent dès qu'on prononce un mot. Et ces idées, ces images peuvent être analysées, mais en tant qu'idées et images, par contre, en situation, comment je fais pour me rapprocher du réel qui peut être sous les yeux évident, mais incompréhensible, très opaque. Et donc c'est ça l'enjeu, et c'est là où les sciences sociales, à mon avis, ont une nécessaire modestie. Elles ne sont pas comme d'autres sciences très exactes qui démontrent des choses de façon apodictique, comme ça, c'est comme ça, deux de fond, quatre points. Les sciences sociales, elles avancent prudemment avec des pistes de réflexion Et il me semble qu'à un moment, quand même, elles convergent vers des résultats communs. Et peut-être qu'on en est un peu à ce moment. Par exemple, je pense que sur des tas de domaines, comme la violence ou d'autres domaines, les sciences sociales convergent vers des propositions assez plausibles, assez fortes, de pistes de réflexion. Mais encore faudrait-il les écouter et ne pas les prendre pour des opinions. C'est très, l'apport des sciences sociales est très difficile à faire, comment dire, à faire comprendre ce dont ça parle. Alors, pour revenir à Lévi-Strauss, oui, contrairement à d'autres chercheurs, voilà, il a tenté donc de poser la question du faire société humain. Voilà.
Alors, vous, loin des tribus Mossi, Françoise Héritier, Bororo dont on vient de parler, ou les Achoirs de Philippe Descola, vous, votre champ d'observation, c'est nous, si j'ai bien compris.
C'est nous.
Et c'est nous que vous n'interprétez pas tout de suite, mais sur lesquels vous essayez de comprendre la signification, à un certain moment, la signification de notre façon de vivre en société. C'est ça ?
Même avant la signification, c'est les mécanismes, c'est comment ça se passe, comment on fait, comment vivent réellement les gens. Et cet objet-là, en fonction des questions choisies, hein, c'est pas en général. Par exemple, si j'étudie un de mes sujets qui était les conduites d'excès, j'ai fait un travail qui s'appelle Vertige de l'ivresse, alcool et lien social. Eh bien, je me suis appuyée. Alors là, il faut prendre toutes les autres sciences sociales en batterie sur des récits d'ivresse inépuisables dans les archives, dans la littérature, dans les films, dans les séries, inépuisables. Partout, et secondaire, tout le temps. Et donc, des récits d'ivresse, des enquêtes sur le terrain auprès des tournées, des jeunes festifs, etc., etc. Dans des lieux précis, etc., etc. Et c'est après avoir un peu confronté tout ça, et en gros, moi, ma méthode, qui est d'une modestie absolue, je suis d'une modestie absolue quant à la méthode, c'est quand la répétition s'impose. Quand ça s'impose, par exemple, dans les scènes de libation collective, le paysage sonore change tout le temps. Au début, mettons un repas de mariage, les gens discutent, et au bout de quelques heures, le son monte, les voix sont plus fortes. Ce changement du paysage sonore, il est indiqué tout le temps et partout. Et c'est très intéressant pour moi, parce que voilà, des choses comme ça, assez précises, sur lesquelles je peux m'appuyer quand elles se répètent. Alors maintenant, il y a une deuxième chose pour moi très importante, c'est une fois que ce travail d'essayer, qui n'est pas très facile, et il faut sans doute avouer des tas d'échecs, et peut-être que soi-même faisant la même enquête 3 ans plus tard, comme tous les ethnologues, on verrait des choses différentes. Mais les quelques pistes de réflexion, au moment où je creuse un sillon qui me semble valide, là j'y vais à fond. Ce que Clifford Geertz appelait la description épaisse. J'y vais à fond et là j'utilise tous les matériaux que je peux trouver et je pousse ma piste de réflexion jusqu'à son extrême de possibilités et après je la propose, mais je la propose comme piste de réflexion. Et après, si c'est un peu utile, ça peut aider, peut-être, le champ collectif, par exemple, pour les travaux sur l'alcool et lien social, ça peut aider aussi à la prévention, qui sait, peut-être pas du tout.
Est-ce que d'autres anthropologues s'appuient sur les travaux préalables d'anthropologues, comme point de repère, comme cadrage, comme référence, comme comparaison, ou pas tellement?
Disons que il y a deux choses. La première, c'est que oui, les études sont faites pour ça et les professeurs sont faits pour ça. Et dans l'océan des bibliographies, un océan devenu un raz-de-marée effrayant avec Internet, puisqu'on a toutes les bibliographies de la planète entière, avec l'abstract in English, qui pour moi est une calamité. Il peut être un peu utile, mais surtout, si on croit qu'il suffit, l'abstract in English, parfois, il détruit ce qui, dans le papier original, était important. Donc, mieux vaudrait l'étudiant actuel a beaucoup de problèmes avec les bibliographies gigantesques.
C'est l'épaisseur dont vous parliez qui manque.
Non, l'épaisseur, elle était ailleurs, elle était dans la description, mais là, oui, oui. Au contraire, important, c'est l'océan des bibliographies. Et donc là, le prof est important, et quand même, il y a des classiques, à mon avis, pendant les quelques années d'études, eh bien, mon Dieu, il faut s'y plonger. Bon. Ah, parfois, c'est passionnant, parfois, c'est un peu... Voilà, mais il faut s'y plonger. Par contre, un des points très importants, mettons, de l'ethnophénoménologie, c'est partir du terrain. Si vous partez d'une grille théorique et que vous essayez de la retrouver dans le terrain, par exemple ce qu'a fait Pierre Bourdieu, qui a fait des travaux parfois d'ailleurs descriptifs à valeur ethnologique, mais parfois il a plaqué, si vous plaquez, vous aurez des résultats extrêmement différents de l'inverse, c'est-à-dire si vous acceptez de commencer par le terrain et par le vide et par essayer de stopper la rage interprétative, à ce moment-là, vous aurez une recherche extrêmement différente.
Je comprends qu'il faut ralentir le temps et je pense que l'expérience que nous venons de vivre ensemble en est une formidable illustration parce que le temps a passé à une vitesse folle et ne donne qu'une seule envie, c'est de pouvoir reprendre cette expérience prochainement. Nous vous réinviterons, j'espère que nous aurons le plaisir de vous retrouver en 2022. Merci infiniment, Véronique.
Merci à vous.
Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.